Merci d'écouter RFI, il est 10h en temps universel et 11h ici à Paris. Et tout de suite, un nouveau journal avec vous, Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. À la une, les États-Unis et la Russie sur la même ligne à propos de la guerre en Ukraine. C'est ce que vient de dire le Kremlin à Moscou. Un mois que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Et dans ce journal, nous verrons l'enthousiasme de ses supporters. Et puis le désarroi des migrants désormais bloqués à la frontière mexicaine. Enfin, la mort de Souleymane Cissé, le grand cinéaste malien. Dans 10 minutes, vous retrouverez 8 milliards de voisins. La rencontre promet d'être tendue aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Kiskelog, l'émissaire de Donald Trump, arrivé hier à Kiev. Parce que ces dernières heures, le président des États-Unis s'est encore un peu plus rapproché des positions russes au sujet de la guerre en Ukraine, en qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur et en affirmant que puisque la Russie a conquis beaucoup de territoires en Ukraine, elle a les cartes en main. Le Kremlin vient d'ailleurs de réagir en affirmant qu'il partageait les positions de Donald Trump. Alors oui, c'est vrai, la Russie progresse dans l'est de l'Ukraine, sur le plan militaire, dans la région du Donbass. Exemple, du côté de Pokrovsk, la ligne de front se rapproche, notamment de la localité de Svitlé, où les habitants hésitent désormais à abandonner leur maison. Reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Une allure qui détonne dans cette bourgade assoupie entourée de terrils. Capuche avec des cornes sur vêtements, enceinte portable en bandoulière, Nikita, 17 ans, a été chargée par ses parents de venir chercher un carton d'aide alimentaire devant la mairie.
On réfléchit à partir dans la région de Tchernihiv, parce que le front se rapproche.
En cette matinée ensoleillée, les échos des combats qui se déroulent à une douzaine de kilomètres semblent lointains. Des obus ont déjà été tirés sur la localité, mais Tatiana, retraitée, n'a pas l'intention de partir.
On restera ici et advienne que pourra. Pourquoi ils font souffrir les civils? C'est terrible.
Au prix de grands efforts, Anatoly accroche le carton d'aide alimentaire sur son vélo. À 49 ans, cet ancien mineur, malade des poumons, en paraît 20 de plus. Si les Russes venaient jusqu'ici, ils ne partiraient pas.
J'aimerais bien sûr que ça reste ukrainien, mais à vrai dire, j'ai un oncle, des cousines en Russie, et je vous avoue que je ne sais pas qui croire. J'aimerais surtout qu'on vive tous en bonne entente, qu'il n'y ait plus de guerre entre nous.
Le pasteur Igor Yershov supervise les opérations de distribution d'aide alimentaire.
Les 90% de la population restée ici sont des personnes âgées. Quand on leur dit de partir, elles répondent « Mais où irions-nous ? » Et pour elles, peu importe qui de l'Ukraine ou de la Russie sera au pouvoir ici.
Plus que l'éventualité du passage sous drapeau russe, c'est l'envolée des prix qui préoccupe les habitants ou encore le fait que l'autocar ne passe plus que deux fois par semaine. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Svitlé, RFI.
Ça fait un mois que Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche, une véritable révolution géopolitique, révolution aussi à l'intérieur des États-Unis et les partisans de Donald Trump. Triomphe, ils sont particulièrement galvanisés par le démantèlement de l'État fédéral, comme l'a constaté notre envoyé spécial David Thompson à la CPAC de Washington, une grande conférence du Parti républicain.
Retraitée venue du Texas, Suzanne résume le sentiment d'enthousiasme général partagé par les partisans de Donald Trump croisés dans les allées de la CPAC de Washington.
C'est Noël tous les jours, c'est ce que je me dis en me réveillant. Même si la moitié des réformes ne voit pas le jour, c'est génial.
La CPAC, cette grande kermesse annuelle entièrement dédiée au culte de Donald Trump, ses partisans sont encore plus galvanisés qu'à l'accoutumée, tous émerveillés par son bilan. Grand-mère du Delaware, Robin se réjouit du démantèlement en règle de l'État fédéral qu'elle préfère appeler l'État profond et dont les fonctionnaires seraient selon elle corrompus, inutiles et inféodés aux démocrates.
On a voté pour élire le président, on n'a pas voté pour élire l'État profond et pourtant ce sont eux qui dirigent notre pays.
Et selon cette designeuse d'intérieur retraitée, Elon Musk serait l'homme de la situation.
Je ne peux pas imaginer meilleure personne pour faire ce travail. C'est l'homme le plus riche du monde. Il est comme Trump. C'est un businessman.
Et Donald Trump promet de redistribuer aux Américains 20% de l'argent économisé par les coupes budgétaires d'Elon Musk. Nathalie, retraitée elle aussi, compte beaucoup sur ses retombées.
L'argent de nos impôts a été détourné. J'ai de la famille qui est âgée et cet argent pourrait être utilisé pour ces gens qui sont en fin de vie pour qu'ils n'aient pas à vivre avec seulement 2000 dollars par mois.
Après un mois à la Maison Blanche, le bilan de Donald Trump comble autant ses partisans qu'il tétanise l'autre Amérique, celle qui n'a pas voté pour lui. David Thompson, Washington RFI.
Autre motif de réjouissance des partisans de Donald Trump, sa politique migratoire, la remise en cause du droit du sol, l'expulsion des migrants. Côté mexicain, de nombreux migrants sont bloqués au Mexique depuis que la plateforme des services migratoires américains a été suspendue. C'est elle qui délivrait des rendez-vous pour entrer légalement aux États-Unis. Reportage de Marine Lebeg.
Dans le nord de Mexico, des cabanes de bois s'alignent au bord d'un chemin de fer désaffecté. Leslie, une Vénézuélienne de 27 ans, espérait quitter définitivement le petit abri qu'elle partage avec 6 autres personnes.
Ça faisait si longtemps, quasiment 4 mois, que j'attendais de recevoir ce rendez-vous. Quand je l'ai enfin reçu le 17 janvier, ce fut une joie immense. Mais elle n'a duré que 3 jours. On n'a même pas pu se faire rembourser les billets d'avion achetés pour aller à la frontière. On s'est retrouvés ruinés. Tout ce qu'on avait économisé, on l'a dépensé dans notre billet d'avion. On a perdu tout cet argent et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de travailler.
Et recommence à économiser en espérant pouvoir bientôt entrer aux États-Unis. Parce que pour Leslie, comme pour sa voisine Candy, pas question de rester au Mexique ou pire, de rentrer au Venezuela.
Non, au Venezuela, non. Ce serait retourner en arrière, échouer et se retrouver de nouveau dans ce trou où on était et dont il a été si difficile de sortir. Je ne veux pas non plus croire qu'on va rester au Mexique parce que j'espère qu'ils trouveront un nouveau moyen pour nous faire entrer légalement aux États-Unis. Il faut attendre encore un peu et voir ce qu'il se passe. En attendant, travailler et essayer de survivre parce que la vie est dure ici.
Mais attendre combien de temps ? S'il le faut, encore une année, assure Candy, ou le temps qu'il faudra pour atteindre ce rêve qui nous a fait partir de chez nous. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
Dans le reste de l'actualité, les dépouilles de 4 otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 viennent d'arriver en Israël. En France, l'affaire Betaram est toujours à la une de l'actualité avec la garde à vue de 3 hommes accusés de violences sexuelles et physiques contre des élèves de ce lycée collège catholique des Pyrénées. Et alors que François Bayrou, le Premier ministre, affirme toujours avoir tout ignoré de ce scandale majeur, les députés se sont entendus pour mettre en place une commission d'enquête sur les violences dans toutes les écoles.
Du Rassemblement national à la France insoumise, tous les parlementaires ont voté pour la création de cette commission d'enquête. Une commission réclamée par le député LFI Paul Vannier. Il reste encore quelques étapes, mais l'objet de cette commission, c'est d'enquêter sur les violences dans les écoles, de les prévenir dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. Ce sujet a pris de l'ampleur depuis les révélations du journal numérique Mediapart. Le Premier ministre, François Bayrou, est accusé d'avoir eu connaissance des agressions et violences sexuelles à Notre-Dame de Betaram dans les années 90. Comme dans d'autres affaires, les crimes sexuels de l'abbé Pierre ou les violences sexuelles dans le cinéma, ce sont les premiers témoignages qui libèrent la parole et en entraînent d'autres. Pour cette affaire, une quinzaine de nouveaux signalements ont eu lieu en quelques jours. Il y a 132 plaintes en tout, mais cela pourrait continuer. Si tout se passe normalement, la commission d'enquête parlementaire pourrait commencer ses travaux dans 2 semaines.
Louis Cal du service France de RFI. On termine ce journal avec la mort d'un monument du cinéma mondial, le réalisateur malien Souleymane Cissé, qui avait 84 ans, premier cinéaste d'Afrique subsaharienne, primé au Festival de Cannes en 1987 pour son film Yélène, un film majeur selon le critique français Jean-Michel Frodon.
Avec Yélène, Souleymane Cissé réalise un film essentiel, un film majeur, pas seulement du cinéma malien ni du cinéma africain, mais de l'histoire du cinéma en général, où là, il déploie tout un ensemble de ressources cinématographiques, le sens de la mise en scène, le sens du récit, le sens de la lumière, le sens du montage, rapport entre le visible et l'invisible, des traditions qui viennent du monde bambara et des rapports très modernes avec le langage cinématographique qui font de ce film un repère majeur dans l'histoire du cinéma. C'est un film qui donne accès à des spectateurs non africains, non familiers de ces cultures et de ces pratiques, aux manières de percevoir les rapports entre les parents et les enfants, entre les humains et la nature, entre des gens appartenant à des mondes différents, qui sont des ressources formidables grâce aux moyens du cinéma.
Jean-Michel Frodon avec Edmond Sadaka, il est 11h10 à Paris.